Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la conférence d'Albioma. Pour votre information, la conférence d'aujourd'hui est enregistrée. À présent, je voudrais donner la parole à Monsieur Jacques Petri. C'est à vous.
Merci Madame, bonjour à tous. Merci beaucoup de vous libérer pour notre réunion de ce soir avec un préavis très court. Nous annonçons effectivement aujourd'hui une très bonne nouvelle au Brésil et nous allons vous la présenter, vous la commenter. Je suis accompagné pour cette réunion ici à Paris de Julien Gauthier, directeur général adjoint pour la finance, et d'autre part au Brésil, Frédéric Moine, directeur général adjoint en charge du Brésil. Pour des raisons techniques, il est possible que la ligne avec le Brésil soit parfois mauvaise, donc je vous demande un peu d'indulgence sur les conditions techniques de cette réunion. Mais il nous a paru utile de faire en sorte que Frédéric puisse lui-même commenter le projet. Et si, par mégarde, la ligne était coupée, Julien et moi reprendrons le relais et commenterons le projet. Vous avez un accès aux slides que nous allons défiler devant vous. Et nous vous rappelons, donc c'est le slide numéro 3, qu'en mars 2012, nous avons annoncé au marché notre nouvelle stratégie qui se focalisait sur la valorisation à haute valeur ajoutée ou à haute efficacité de la biomasse et en particulier de la bagasse. Et nous annoncions notre volonté de nous développer à la fois dans les départements d'outre-mer et à l'international. En 2013, nous avons annoncé que le Brésil était notre priorité à l'international. Nous avions sélectionné le Brésil selon des critères très 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 précis et nous les avions partagés avec le marché. Quelques mois plus tard, nous ouvrions le bureau de Albioma au Brésil. Frédéric Moine s'est installé dans la foulée au Brésil et en mars 2014, nous avons annoncé notre premier projet au Brésil, Rio Pardo Thermoelectrica, qui, vous vous en rappelez, a eu un impact très positif dans les comptes du groupe pour 2014. Et nous sommes très heureux aujourd'hui d'annoncer la signature de la documentation définitive en vue de l'acquisition d'un nouveau projet au Brésil, Codora Energia, projet qui, vous le verrez, présente des similitudes avec celui de Rio Pardo, projet qui nous satisfait beaucoup puisque nous avons là un actif de grande qualité et un partenaire de grande qualité dont Frédéric va vous parler et nous tenons le rythme que nous avions annoncé d'un projet tous les 12 à 18 mois. Si vous regardez le slide numéro 4, vous voyez que ce projet est dans l'état du Goiás, qui est un état au nord de l'état de Sao Paulo. Nous voyons plutôt un avantage à avoir ce projet dans un autre état que celui de Sao Paulo pour répartir les risques, diversifier les risques en termes de climat, en termes de qualité des récoltes. Et donc nous sommes aujourd'hui heureux d'annoncer ce nouveau projet et vous le voyez situé sur votre carte. Le business model de Albioma au Brésil se trouve validé par ce deuxième succès. D'une part, nous sommes le seul opérateur de pleine externalisation de la cogénération bagasse, incluant l'exploitation, l'opération et la maintenance de ces usines de cogénération bagasse. Nous apportons une prestation d'optimisation de la création de valeur sur les actifs de cogénération et aussi nous apportons une excellence dans l'efficacité énergétique de ces opérations. Nous travaillons avec des partenaires long terme solides que nous choisissons avec beaucoup de soin et nous aimons avoir des projets qui sont sécurisés avec des contrats de vente d'électricité long terme et des financements en monnaie locale. Et c'est tout ceci que nous réalisons avec ce projet de Codora Energia et que je vais maintenant demander à Frédéric de vous commenter en passant aux slides 6 et 7. Frédéric, à toi.
Merci Jacques, bonjour à tous. en direct de São Paulo. Quelques mots donc sur Codora Energia, qui est le nom de la société de projet porteuse des actifs de cogénération, dont Albioma Brésil acquiert 65%, avec un partenaire qui reste à 35% du capital dès le début. J'y reviendrai, mais c'est un signe de confiance très important et qui nous conforte dans notre stratégie dont Jacques vient d'évoquer les principaux points. L'usine Codora Energia, c'est une cogénération qui alimente en vapeur et électricité une distillerie qui appartient au groupe Jalles Machado, on y reviendra également. Et c'est une cogénération quasi neuve, réceptionnée en 2011 pour une puissance installée de 48 MW. Très similaire à Rio Pardo, avec une chaudière haute pression de 200 tonneurs et deux turbines brésiliennes TGM de bonne facture pour une somme de puissance installée, comme je disais, de 48 MW. Elle est localisée, vous l'avez vu sur la carte précédemment, dans une petite ville de l'état du Goiás. Le Goiás, c'est près du district fédéral, donc pas très loin de Brasilia. Et le jour où nous organiserons une visite, il y a des vols directs Paris-Brasilia et ensuite c'est 2h30 de voiture. La distillerie à côté de laquelle cette cogénération se trouve, c'est pas le mot français, pardonnez-moi, elle traite 1,6 million de tonnes de canne à sucre par an. Et le plan de développement de cette distillerie est d'arriver à un outil qui broiera à peu près 2 millions 100 de tonnes de canne en 2018. Et pour accompagner la hausse de ce volume de canne, il est prévu d'investir dans une nouvelle turbine à condensation à tirage qui sera réceptionnée au cours de la prochaine intercampagne début 2017. Pour être pleinement opérationnel et satisfaire en vapeur basse pression les besoins de la distillerie à partir d'avril 2017. Étant entendu que cette nouvelle turbine permettra également d'augmenter la capacité de la cogénération et donc d'augmenter l'énergie exportée, vous le voyez c'est la ligne d'après, de 98 GWh exportés en 2014, la prévision est de passer à un petit peu plus de 170 GWh à horizon 2018. Donc nous sommes sur un outil qui est, en termes de volume d'énergie export, exactement similaire à celui que nous opérons à Rio Pardo. L'acquisition sera financée grosso modo à 50% par de la dette locale et le solde en fonds propres, étant entendu que dans l'enveloppe de dette locale, nous héritons, entre guillemets, d'une enveloppe BNDES de 39 millions de reais aujourd'hui, qui est une dette très intéressante puisque c'est une dette longue et puis c'est une dette pas chère par rapport au Brésil. Donc elle donne de la valeur au projet, comme la dette BNDES que nous avons réussi à transférer sur Rio Pardo donnait de la valeur au projet Rio Pardo. Page 8, deux caractéristiques importantes qui diffèrent du cas Rio Pardo. Codora Energy bénéficie aujourd'hui d'un contrat de vente d'énergie signé sur le marché réglementé. 87 GWh sont sécurisés à un prix 2015 de 205 reais par MWh, indexé sur l'inflation tous les ans, et vendu sur le marché réglementé. Donc une sécurisation forte de près de 50% de l'énergie que nous prévoyons à terme de vendre sur le réseau. Et par ailleurs, un plan additionnel pour accompagner notre investissement dans cette nouvelle turbine de 20 MW, de sécuriser au cours des prochains appels d'offres qui vont être réalisés très prochainement par le gouvernement et le ministère de l'énergie au Brésil, de sécuriser une partie de l'énergie additionnelle avec des très bons prix et avec un contrat de 20 ans également à compter de la date d'entrée en service de la turbine. Cette transaction fait l'objet de conditions suspensives et nous prévoyons que toutes ces conditions suspensives devraient être levées dans quelques mois et donc nous pensons être en mesure de closer définitivement cette opération dans le courant du deuxième semestre 2015 pour contribution à partir du closing dans les comptes consolidés de Albioma. Si vous regardez page 9, cette page 9, il faut voir dans ce graphique une des raisons pour lesquelles Albioma a été choisi, Albioma a été retenu contre ses compétiteurs, c'était un process compétitif, pour réaliser cet outsourcing de la cogénération. Au-delà de la flexibilité qu'apporte Albioma d'autoriser un partenaire sucrier de rester minoritaire au capital, ce qu'apporte Albioma, c'est une expertise technique qui permet de, et c'est évidemment l'internalisation de l'exploitation et de la maintenance, qui permettent, avec ce focus sur l'efficacité énergétique, d'envisager sereinement l'augmentation de l'export d'électricité pour un passage de 59 kWh par tonne de canne en 2014 à 80 kWh par tonne de canne, soit une hausse de 35% à horizon 2 années. Cette augmentation, elle résulte de la combinaison de plusieurs facteurs que vous avez listés en bas de la page 9. Évidemment, un travail sur les rendements de la chaudière et des turbines, un travail sur le cycle, l'adjonction de nouvelles turbines et l'augmentation du taux de fibre essentiellement lié à la mobilisation de la paille, combustible additionnel, qui est disponible en grande quantité et facilement mobilisable. Page 10, quelques mots sur Jalex Machado, notre partenaire. Pour nous, cette deuxième opération, c'est la première avec un groupe traditionnel, très fort, avec une très très forte présence régionale et familiale. Et je dis ça pourquoi ? Parce que c'est la majorité du paysage des groupes brésiliens, au-delà des quelques grands. C'est un paysage de sucriers, on en avait déjà parlé, qui est fragmenté et avec beaucoup de groupes de moyenne taille. Ce groupe Jalex Machado est un groupe très solide, reconnu comme tel par le secteur, qui a une capacité de broyage dans ces deux unités de 4,3 millions de tonnes de canne et qui a un positionnement très particulier, ce qui lui permet d'afficher des marges d'EBITDA bien supérieure à la moyenne du secteur, 65% d'EBITDA pour une moyenne de secteur plutôt aux alentours de 30 à 40%. Et cette marge d'EBITDA, elle est permise notamment par le fait que le groupe Jalex Machado est positionné dans la fabrication de sucre biologique. Un positionnement assez original. Et par ailleurs, ils savent tirer profit de leur positionnement géographique dans l'état du Goiás, avec la possibilité de servir un marché local dans le nord du Brésil. Donc ils ont en fait un avantage compétitif géographique qui ne transparaît pas à première vue, mais qui leur permet, du fait de leur positionnement géographique, d'irriguer un marché local et d'être moins dépendant de l'export. Deuxième groupe de caractéristiques concernant les rendements agricoles. C'est un groupe, et ça c'est assez rare, qui possède 100% de canne propre, c'est-à-dire qui n'est pas dépendant de la canne achetée sur le marché spot. La canne au Brésil, elle obéit à deux logiques. Soit vous en êtes propriétaire quand vous êtes sucrier, soit vous devez aller l'acheter sur un marché qui existe auprès de planteurs qui n'ont pas de contrat long terme avec des sucriers. Et il peut y avoir une concurrence, notamment dans les régions à forte densité de sucriers, qui sont les régions au nord de São Paulo, la ville de São Paulo, il y a de la concurrence forte et la quasi-totalité des groupes n'ont pas 100% de canne propre, ils ont entre 30 et 70% et ça dépend de la stratégie qui est mise en œuvre pour sécuriser l'approvisionnement de la canne. Ce groupe possède 100% de canne propre et c'est une caractéristique qui fortifie beaucoup pour nous, qui sommes dépendants de la bagasse générée par la canne. Ça fortifie beaucoup notre visibilité sur l'approvisionnement de la canne. C'est un groupe qui a des très bons rendements agricoles, avec près de 100 tonnes de canne par hectare, et pour une moyenne plutôt aux alentours de 70 dans le pays. Et ces rendements sont permis notamment, ils viennent de deux choses. Ils viennent de la combinaison du fait que la canne, l'âge moyen de la canne est relativement faible, et donc plus de sucre dans la canne. Et deuxièmement, ils ont plus de 50% de leur surface, ils sont irrigués. Donc, ils sont en quelque sorte, comme on dit ici en portugais, dono do tempo, c'est-à-dire maître du temps. Et c'est très intéressant. La canne est très proche des usines avec un rayon moyen de collecte inférieur à 20 km, ce qui fait en termes de compétitivité, pareil, canne propre, irriguée, proche de la centrale, ça renforce la pérennité de l'activité sur le très long terme. Et enfin, donc une maîtrise foncière très importante, soit du groupe, soit de ses actionnaires, qui en fait un des plus importants propriétaires fonciers de l'État du Goiás. Dernière caractéristique importante, les aspects financiers et gouvernance. La gouvernance de ce groupe, bien que familiale, est très développée. Ils sont audités depuis plus de 20 ans par un des Big Four. Ils ont des membres de conseils d'administration indépendants. Ils ont un département, ce qui est très rare pour le secteur sucrier, un département de relations investisseurs. Ils sont certifiés ISO 9000, ISO 14000 et TCC 22000, justement pour des raisons de qualité et de sucre biologique. Donc une très forte gouvernance et enfin un très bon accès au marché de capitaux pour se financer. Ils sont notés par deux agences de notation et ils sont donc investment grade, à la fois Fitch et Standard & Poor's. Pour la note locale brésilienne, est très bonne, je crois qu'ils sont aux alentours des A ou A+, au Brésil. Page 11, pour terminer, je crois que cette acquisition, comme le disait Jacques, elle nous conforte dans notre stratégie. Elle valide en intégralité le positionnement d'Albioma et elle va permettre de déclencher certainement encore plus que la première une capacité à accélérer nos discussions avec les gens avec lesquels nous sommes aujourd'hui en contact, parce que Jalles Machado a une réputation sur le marché qui est excellente. Jalles Machado est un groupe familial traditionnel et le fait de voir un groupe familial traditionnel décider de travailler avec Albioma et de conserver 35% du capital, cela montre deux choses. Cela montre, un, que ce groupe n'est pas du stress seller. On n'est pas venu ici parce qu'on a fait le plus gros chèque. On vient réaliser cette opération parce qu'on apporte de la valeur ajoutée industrielle. Et deuxième chose, cela montre que ce groupe a la confiance ou a compris la valeur ajoutée, cette valeur ajoutée d'Albioma sur le long terme avec un plan d'expansion, l'installation d'une nouvelle turbine et le full outsourcing de la cogénération qui est considéré comme par ces groupes traditionnels comme le cœur du cœur de l'usine. Donc beaucoup d'opportunités qui se dessinent soit pour l'acquisition de projets brownfield, soit pour la construction de projets greenfield qui va arriver peut-être plus rapidement que ce qu'on avait pensé compte tenu des prix de vente de l'énergie qui sont en augmentation. Des discussions en cours avec plusieurs partenaires potentiels, un objectif confirmé d'un nouveau projet tous les 12 à 18 mois et un objectif donc confirmé d'investissement de 400 millions d'euros à horizon 2023. Un petit mot sur l'annexe page 13. On a essayé de vous mettre des informations synthétiques et didactiques pour que vous puissiez comparer ce qu'est Rio Pardo et ce qu'est Codora. La localisation, on en a parlé. La chaudière, c'est quasi la même. Il y a peut-être une toute petite faute de trappe. La température de la chaudière de Rio Pardo est légèrement plus élevée, mais je ne pense pas que ça porte préjudice. Une capacité installée qui est relativement voisine compte tenu du fait que Codora Energia prévoit d'installer une turbine additionnelle de 20 MW, une énergie exportée l'an dernier presque similaire. Je crois que la différence fondamentale entre Rio Pardo et Codora, c'est ce que vous voyez sur la ligne Power Purchase Agreement, on en a déjà parlé, le fait que Codora a déjà un contrat qui était à l'origine un contrat de 20 ans et qui termine en 2023, si ma mémoire est bonne, à un prix très attractif qui permet d'avoir une visibilité sur 50% de notre production future. Et deuxième différence fondamentale, le partenaire sucrier, il reste au capital à hauteur de 35% dès le début en nous accompagnant. Une enveloppe de DBNDS est légèrement supérieure sur Codora Energia. Voilà ce que l'on peut dire sur Codora. Je repasse la parole à Jacques.
Merci beaucoup Frédéric. Peut-être un mot de conclusion avant de passer la parole à vous tous par téléphone. Donc nous sommes heureux de cette deuxième étape. Je réponds à une question qui ne manquera pas d'être posée sur le prix d'acquisition. Nous ne vous donnons pas le prix parce que nous avons conscience du fait que nous sommes dans un monde qui va être de plus en plus concurrentiel. Nous ouvrons le marché, nous avons maintenant deux projets visibles et ça ne manquera pas d'attirer les concurrents. Et donc, nous ne souhaitons pas donner trop d'informations à nos concurrents. Et donc, la seule chose que je peux vous dire sur ce projet de Codora Energia, c'est que le prix d'acquisition est proche du prix de Rio Pardo. Et je regrette de ne pas vous en donner plus, mais ce serait imprudent de le faire. Donc c'est un beau projet, c'est un projet pour lequel nous avons les mêmes ambitions de rentabilité sur le moyen et long terme que ce que nous avons sur Rio Pardo. Et puis nous sommes heureux d'annoncer ce projet 48 heures après avoir annoncé une petite acquisition à La Réunion dans le domaine du photovoltaïque, mais qui montre bien que nous avons deux grands terrains de jeu, les départements d'outre-mer d'une part et le Brésil d'autre part. Voilà ce que nous souhaitions vous dire. Maintenant, je vais passer la parole aux opérateurs qui vont organiser le jeu des questions-réponses.
Merci. Si vous souhaitez poser une question, veuillez appuyer sur la touche étoile suivie du chiffre 1. Nous allons prendre notre première question de Audrey Nett de Amandi.
Oui, bonjour. Vous avez parlé du coup d'un investissement sur la turbine, d'une nouvelle turbine de 20 MW. J'aurais voulu savoir à combien s'élevait cet investissement.
Je passe la parole à Frédéric, mais comme je vous ai dit qu'on n'allait pas vous donner le prix d'acquisition, je ne suis pas certain qu'on vous donne beaucoup de détails sur le prix de cette nouvelle turbine. Mais Frédéric, est-ce que tu peux donner quelque chose?
Écoutez, non, je ne vais pas vous donner plus que ce que Jacques vient de vous dire.
Voilà, donc désolé, maintenant que nous sommes dans un monde de vraie concurrence, nous allons rester très discrets sur nos investissements, nos capex, car c'est un élément clé de la concurrence. Nous vous donnons déjà beaucoup d'informations dans le communiqué, dans ces transparents, sur les espoirs de progression des ventes d'électricité. Nous vous donnons beaucoup de choses, mais nous sommes obligés de nous protéger un tout petit peu.
D'accord, voilà. Je vous remercie.
Merci.
Notre prochaine question nous vient de Philippe Pourpatient de Natixis. C'est à vous.
Oui, bonjour Monsieur Petri, bonjour Monsieur Gauthier, et bonjour Monsieur Moine. J'avais un certain nombre de petites questions. Alors, la première concerne, je vais quand même essayer, on ne sait jamais, mais est-ce qu'on peut avoir une idée du montant que vous injectez vous en fonds propres uniquement? Ça, c'est ma première question. La deuxième concerne, est-ce qu'on peut avoir une idée du coût de la dette BNDES de ce projet? La troisième concerne, est-ce qu'on peut avoir une idée du différentiel, vous vendez 87 gigawattheures à 205 réals. Le solde, je suppose qu'il est en condition spot. Est-ce qu'on peut avoir une idée aujourd'hui du niveau de ce spot et quand vous allez augmenter la puissance, ça veut dire que la partie réale restera, enfin les 205 déjà vendus resteront et c'est le solde qui sera, si j'ai bien compris, sous la forme des PPA qui sont à venir. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la rentabilité de cette unité aujourd'hui en termes de marge d'EBITDA, est-ce que c'est comparable à Rio Pardo et est-ce que vous pouvez donc améliorer, puisque en faisant un petit calcul de point de table, on a un taux d'utilisation qui passerait aujourd'hui de 23% dans la config à 48 mégas à presque 28%, donc quand même une très forte hausse des taux d'utilisation. Donc je suppose que ça a un impact aussi sur la marge d'EBITDA. Et puis, est-ce que vous avez prévu un coût de sortie des minots? C'est-à-dire que est-ce que votre co-actionnaire reste quoi qu'il arrive ou il y a une clause de sortie quelque part? Et enfin, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'IR, donc du TRI du projet? Est-ce que c'est comparable à Rio Pardo? Est-ce qu'il y a des différences fondamentales? Est-ce qu'on est effectivement dans votre enveloppe telle que vous l'aviez définie dans vos critères d'investissement? Merci.
Alors, je vais répondre sur les aspects actionnaires et puis Frédéric répondra sur le reste. On va évidemment pas vous donner le montant des fonds propres que l'on va investir dans le projet. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que on imagine avoir une structure dette fonds propres comparable à celle que l'on avait dans le premier projet, donc 50-50, et puis nous aurons 65% des 50%. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les fonds propres. Pour ce qui concerne le mécanisme de sortie des partenaires, il n'est pas public. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes ravis que les partenaires soient à nos côtés et nous ferons tout pour qu'ils restent à nos côtés parce que c'est pour nous la vraie façon d'aligner les intérêts long terme du sucrier éthanolier nous-mêmes. Donc nous n'avons pas du tout l'intention de les voir sortir et comme ils sont décidés d'être à nos côtés dès le départ, je pense que c'est une question qui ne se pose pas, même si, comme dans tous les accords d'actionnaires, ces sujets-là sont éventuellement traités. Et pour ce qui concerne le TRI de cet investissement, comme sur le premier projet, nous ne l'avons pas donné. En revanche, nous vous confirmons que notre référence, c'est nos investissements dans les DOM, avec le 11% de retour sur capitaux engagés, qui est notre benchmark dans les DOM, auquel nous avons ajouté un risque pays très significatif qui couvre en particulier les risques de change de la partie fonds propres de l'investissement. Mais comme il y a un an, nous n'en donnons pas plus à ce stade. Là aussi, c'est un élément de notre compétitivité. Nous ne souhaitons pas donner tout à nos concurrents. Voilà pour les questions concernant notre investissement et notre partenariat. Frédéric, est-ce que tu veux bien répondre sur les autres aspects?
Oui. Concernant le coût de la dette BNDES, on est sur quelque chose de très classique, c'est TJLP plus 2,05% pour être très précis. Le TJLP, c'est le taux d'intérêt long terme qui est quasi fixe et qui est aujourd'hui à 6%. Donc ça fait un coût total de la dette de 8,05%. Donc un coût réel compte tenu de niveau d'inflation qui est très faible. Par comparaison au coût de la dette bancaire, donc le solde de la dette d'acquisition que nous lèverons dans des conditions de marché classiques auprès de banques commerciales, la dette bancaire, elle est levée à un coût qui est CDI, donc l'équivalent brésilien de l'Euribor, si on peut dire, sauf que CDI est à 12,75% et plus la marge. Hein. Donc c'est CDI plus marge à 12,75 plus marge contre TJLP plus marge, et TJLP est à 5 et à 6. Concernant la vente d'énergie, vous avez raison, le fait d'installer une nouvelle turbine va nous permettre de générer des volumes additionnels et l'idée est de vendre une grosse partie de ces volumes additionnels en saisissant l'opportunité de marché que représentent les prochains appels d'offres. Le prix, ces appels d'offres, ce sont des mécaniques d'enchères inversées. Il y en a plusieurs, et Codora Energia s'est inscrite pour participer au prochain, qui est un appel d'offres qui s'appelle A-5, c'est-à-dire pour livraison de l'énergie produite d'ici à 5 ans. Et le prix plafond a été publié, je vous laisserai le rechercher, mais il est très élevé. Le prix plafond de l'appel d'offres. Donc l'idée, c'est qu'on puisse vendre une bonne partie de cette énergie additionnelle en sécurisant un contrat long terme qui aura une durée de 20 ans à compter dans 5 ans et à un prix très élevé. Et évidemment, le solde de la production sera vendu au spot et le spot aujourd'hui est au plafond d'appareil théorique maximum qui est de 388 reais du mégawattheure. Sachant que les anticipations sur le long terme, c'est que ce spot ne va pas rester à ces niveaux-là. Donc, les modèles sont construits comme d'habitude et comme sur Rio Pardo, sur des anticipations de prix spot long terme, bien plus réalistes, aux alentours des 150-160 reais du mégawattheure.
Merci Frédéric. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Notre prochaine question nous vient de Françoise Delva, Gilbert Dupont. C'est à vous.
Oui, bonsoir messieurs. Donc, bravo pour cette acquisition. J'avais quelques petites questions supplémentaires. Un point juste que je voulais repréciser sur l'appel d'offres auquel vous allez bientôt participer. On est bien d'accord que c'est pour une livraison d'électricité dans 5 ans, c'est-à-dire à partir de 2020, c'est ça? Une question
spécifique. Oui, c'est exact. C'est entendu que l'installation de cette turbine ne sera opérationnelle qu'à partir de 2017. Donc, la stratégie de commercialisation, ça va être de rester sur le spot pour la fin d'année 2017, 2018, 2019 et récupérer le contrat pour 20 ans à compter du 1er janvier 2020. Sachant D'accord. que les anticipations, la courbe des prix, si vous voulez, la courbe des prix spot est telle que pour le moment, l'anticipation, c'est que le prix spot, il est intéressant de rester exposé au spot, au moins sur le court terme.
D'accord.
Madame Delvin.
Oui, et juste justement pour voir un petit peu la montée en, en puissance sur la production. On est aujourd'hui à 98 gigawattheures. Donc l'objectif 2018, c'est ce que vous nous avez dit, c'est un peu plus de 170 gigawattheures avec la nouvelle turbine et j'imagine la nouvelle injection de matière. C'est bien ça, en augmentant à la fois le traitement, le tonnage de bagasse et en ayant cette troisième turbine.
Oui.
C'est bien ça. Et ça, c'est 2018. Est-ce que dès 2017, vous pensez déjà pouvoir augmenter, avoir un effet sur le rendement et sur la production d'électricité? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu un séquençage?
Frédéric, avec prudence, qu'est-ce que tu peux dire?
Et je peux dire qu'il y aura un séquençage et que vous pouvez prendre une règle de 3 entre 98 et 170.
D'accord. Mais ça veut dire que là, la règle de 3, ça veut dire que en fait, l'impact turbine n'est pas si important que ça? Je ne comprends pas bien.
Oui et non, parce qu'il y a des changements de conditions d'exploitation. Et il ne faut pas oublier que l'augmentation du volume de canne, ce n'est pas du tout ou rien. Il va être linéaire aussi sur la période.
D'accord. D'accord, merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a une autre question?
Est-ce que ces éléments étaient comptabilisés dans votre guidance?
Alors, vous avez bien noté qu'il y a des conditions suspensives et que donc nous ne savons pas exactement quand le projet démarrera. Il démarrera, si tout va bien, au deuxième semestre de cette année et il était dans la guidance que nous avons donnée lors de la SFAF il y a quelques semaines.
D'accord, merci.
Merci Madame Delva. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions?
Nous n'avons plus d'autres questions pour le moment.
Eh bien écoutez, merci Mesdames, Messieurs de vous être libérés pour cette réunion. Julien est à votre disposition pour éventuellement prendre des appels si vous avez d'autres questions à poser dans les heures prochaines. Et sinon, ben, à très bientôt. Bonne soirée.
Au revoir.
Mesdames et Messieurs, ceci conclut la conférence d'aujourd'hui. Nous vous remercions de votre participation. Vous pouvez vous déconnecter.